Bienvenue à bord du vaisseau Hyper Sans Sas.
Bonjour à tous et bienvenue dans 6388, votre podcast qui fait le tour de la création de jeux de société. Je suis Zéphiriel et pour parler de tout ça, je suis accompagné du magnifique Théo Rivière. Salut.
Salut Zéphiriel, comment tu vas?
Bah écoute, pas si mal que ça, content d'être à notre 7ème émission et plutôt fier d'être jusque là. Et toi, comment vas-tu?
À fond, ce qu'on peut dire, parce qu'on révèle tous nos secrets, mais c'est la première émission qu'on enregistre depuis que le premier épisode est sorti.
C'est vrai.
Parce qu'on avait pris un peu d'avance, parce qu'on était très très motivés. Et donc, j'avoue qu'avec, au prisme de vos retours et de vos mots d'encouragement, je suis encore plus excité à l'idée d'enregistrer ce 7ème épisode.
Ouais, moi aussi, ouais, je suis assez content de l'accueil qu'il y a eu ces derniers temps sur l'épisode, et c'est vrai que c'est assez motivant. D'ailleurs, c'est pour ça que je disais quand t'avais posté la photo de ton nouveau micro, que c'était là, vous entendez la nouvelle voix de Théo sur cet épisode.
Ah, j'espère que ça fait une petite diff, en tout cas, et j'ai un bel objet devant moi, c'est un peu joli, je me sens comme un semi-pro, ça fait plaisir.
C'est exactement ce qu'on veut, tu es un pro Théo, on le sait. 6388, donc on reprend finalement avec Théo toute la phase de création d'un jeu de société depuis le début jusqu'à sa sortie en boutique et voir sa vie même après tout ça. Dans l'épisode 6, on avait découpé, cisaillé, exploré tout ce qui était le contrat éditeur-auteur pour parler de tout ça et voir un peu dans les chiffres et dans les faits ce à quoi on devait s'attendre et quels étaient un peu les pièges et comment on devait faire les concessions avec son éditeur. Là, on a passé tout ça, on a notre jeu qui est prêt, il est signé avec l'éditeur, on est tout content. Maintenant, comment ça se passe, collaboration éditeur-auteur, comment elle se passe réellement, comment elle se nourrit et comment elle va grandir. Et on va s'arrêter à la fin de la production du jeu, si je dis pas de bêtises, c'est-à-dire que on va être jusqu'à ce que le jeu soit fait dans les usines et soit sorti, reçu chez l'éditeur et avant qu'il soit encore sorti en boutique. Tu m'arrêtes ou c'est bon?
Non, comme ça on peut faire deux épisodes, un peu un épisode sur la relation avec l'éditeur, sur toute cette phase-là où le jeu est en cours de travail et il va sortir un moment, et après la relation avec l'éditeur et avec le jeu par extension, et avec les joueurs, les boutiques, un peu avec tout le monde en fait, à partir du moment où le jeu sera sorti.
Bah écoute, je te propose de se lancer directement là-dedans. La première question qui est très généraliste finalement, mais on va la découper au fur et à mesure, c'est de se demander, une fois que tu as donné... Alors, je vais l'appeler le manuscrit, mais c'est plus le proto final à l'éditeur. Toi, en tant qu'auteur, j'imagine que t'as encore plein de choses à faire, mais on va y revenir. Mais du coup, comment on trouve sa place là-dedans? C'est-à-dire que à quel moment, en fait, tu as encore ton mot à dire sur quelque chose dans le jeu, ou est-ce que c'est l'éditeur qui revient régulièrement vers toi par un problème de mécanique? En fait, quels sont les petits changements qu'il peut y avoir très rapidement sur la pré-production, c'est-à-dire avant même de trouver une usine ou un truc comme ça?
Alors, ce qui est bien, c'est que vous commencez un peu à avoir l'habitude, mais... Ça dépend vachement des éditeurs, et vraiment les éditeurs sont très différents à ce niveau-là. Ça peut aller de, et on va d'abord prendre ce cas de figure-là, pratiquement pas de changement. Il y a des jeux que j'ai signés avec des éditeurs où globalement l'éditeur a joué, il était chaud, il allait le faire. Ponctuellement, ils ont continué un peu les tests auprès des joueurs, de faire tourner le proto pour s'assurer que tout allait bien après la signature du contrat. Et puis les retours, c'est écoute, on n'a rien à redire sur l'équilibrage, on aime bien le thème, on aime bien le nom, on va rien changer, c'est parti, on va trouver un illustrateur ou une illustratrice, et puis on lance la production à proprement parler du jeu, l'édition même, pour que ça ressemble à quelque chose. C'est vraiment la relation éditoriale presque la plus simple, puisqu'au final, il y a juste à discuter un peu du style graphique qu'on évoque un peu plus tard en détail, mais au niveau du développement mécanique, rien à dire, tout est fini, et puis en avant, c'est parti, quoi.
D'accord.
Ponctuellement, ça va être plus long et un peu plus compliqué, pas dans le sens compliqué désagréable, hein, mais dans le sens compliqué, plein de choses à faire, puisque parfois, l'éditeur va avoir envie de faire du développement. Typiquement, un bon exemple, c'est The Loop, qui arrive là chez Catch-Up tout bientôt, au moment où on enregistre, qui sera sorti au moment où vous écoutez cette émission. Allez acheter une boîte, c'est un super jeu, je vous le recommande. Instant promo.
Je plus sois.
The Loop, entre ce qu'on a signé chez Catch-Up Games et le jeu qui est en boutique aujourd'hui, il y a un monde de développement et il y a une différence qui est vraiment, vraiment majeure. Ce qui n'a pas changé, c'est le propos du jeu, ce qu'on voulait dire nous en le créant. Le thème n'a pas changé, la manière dont on joue dans les grandes lignes a vraiment pas forcément été bouleversée. Par contre, on a changé énormément de petits détails, énormément de... Ouais, même je mens presque en disant que des petits détails, on a changé énormément de choses pour que le jeu ressemble à ce que Catch-Up voulait et en même temps soit le... Et pareil, on en parle un peu plus tard, le meilleur produit possible. Je m'explique sur ça. La première chose, c'est il y a une notion qui est importante, je trouve, quand on signe chez quelques éditeurs, tout le monde le fait pas, mais un peu de ok, ton jeu il ressemble à un truc qui te satisfait, il était suffisamment satisfaisant pour être signé par un éditeur, mais ce qui peut être mieux. Souvent on parle de challenger les auteurs, qui est pas un très joli mot, mais qui est quand même, j'ai pas d'équivalent qui me plaît plus. Et donc ponctuellement, bah, y a vraiment les éditeurs qui vont jouer, parfois plus que toi, à ton prototype, et revenir avec plein de remarques, plein de trucs qui te sort un peu de ta zone de confort. On avait évoqué cet aspect de bah, « il y a un moment, mon jeu, il est presque fini, je suis content, ça marche, et moi, je pourrais m'arrêter là, en fait. » Mais l'éditeur, il va remettre en question un peu toutes les petites décisions, tous les petits trucs que t'as pris, toutes les mécas sur lesquelles tu t'es dit dès le début « bah ouais, ça marche, j'ai pas de raison de la re-réfléchir. Bah, » L'éditeur, comme il arrive avec un regard un peu frais, qui va multiplier les tests, qui va tester avec d'autres groupes de joueurs, et que lui, il a vraiment envie de pousser le jeu le plus loin possible pour que ça soit le meilleur jeu possible, ponctuellement, va vraiment y avoir cette notion de mais votre jeu de cartes, là, vous avez réfléchi si on avait 7 cartes en main plutôt qu'en avoir 5 au début de la partie. Puis toi, bah, toutes tes parties, tu les as faites avec 5 cartes en main, et puis bah, c'était un peu calé dans ta tête comme ça. Et à ce moment-là, souvent, tu te dis « Ah oui, c'est vrai, on n'a pas réfléchi à ça, bah, on va tester pour voir si ça peut être mieux de cette manière-là ou d'une autre. »
D'accord. En fait, pour The Loop, je pense que comme le jeu, il est plus complexe dans sa mécanique, et il y a beaucoup de parties qui peuvent changer suivant comment tu fais ton setup de personnage, entre guillemets, je pense que c'est logique qu'il y ait un nouveau regard, parce que la complexité est présente et la probabilité de changement de partie est présente aussi, la rejouabilité pour utiliser le terme. Mais mais en plus, comme tu le disais, l'éditeur il a un œil à la fois très pro parce que bah, du jeu il en bouffe tout le temps et très frais comme tu l'as dit aussi parce que bah il a pas travaillé le jeu avec toi donc il le prend complètement nouveau. Il peut se permettre d'avoir ce regard un peu en décalé. Mais à quel moment en fait il a cette enfin je vais parler d'ascendant quand même sur le côté pro, bien qu'on ait dit que dans l'épisode d'avant qu'il faut pouvoir garder cette ligne horizontale entre les deux, que vous êtes vraiment collaborateur. Mais à quel moment justement il peut dire bah non ça il faut le changer ou ça il faut et toi tu dis bah non ça je veux le garder quoi qu'il arrive.
C'est compliqué clairement et The Loop c'est encore un bon exemple. Il y a une relation qui se crée et qui est importante de confiance sur les retours des éditeurs. Mais clairement sur The Loop il y a des moments où nous on en avait marre quoi. Et il y a eu des retours de catch-up où on était pas énervé avec Maxime parce que c'est un jeu que je fais avec Maxime Rambourg, mais on était ouais on en avait marre quoi. Ça vraiment il y a des moments où on recevait des messages on était genre oh non pas encore on en a marre vraiment vous êtes toujours pas content quoi.
Mais marre parce que lui enfin l'éditeur était trop pointueux ou voulait trop changer de petits détails ou parce que et il avait raison enfin tort entre guillemets parce que bon, au moment faut savoir arrêter de changer les choses ou marre parce que merde, le jeu il était bien et en vrai là on commence à changer sur un truc qui nous plaît moins.
Ça jamais. Pour le coup moi c'est vraiment un truc où là je le vis sur un autre projet qu'on fait avec la team Kaedama où l'éditeur veut amener le jeu dans une direction qui est pas celle qu'on a envie d'avoir et clairement on lui a dit bah écoute nous c'est pas la direction qu'on veut donc bah soit on part sur cette direction là. Toi, tant pis, on s'arrête là et puis c'est pas grave quoi. Qu'il y a des trucs qui, je pense, rarement, mais peuvent arriver si vraiment tu te mets pas d'accord. J'ai eu quelques histoires et je l'ai entendu plusieurs fois sur du développement qui se passait vraiment pas bien. Et puis au bout d'un moment, bah, soit l'auteur lâche l'affaire, parce que j'ai quand même des histoires aussi en tête que moi j'ai pas vécu, mais qui arrivent de bah, l'auteur il dit bah tant pis, faites comme vous voulez et puis j'en ai marre. Voilà quoi, c'est pas la direction que j'aurais prise, mais bah l'éditeur, faites-le. Donc c'est plutôt l'éditeur qui à la fin a quand même le pouvoir. Mais aussi des histoires où là l'auteur prenait un peu le pouvoir et disait bah en fait la direction que vous voulez emprunter à mon jeu bah c'est pas celle que je veux donc je m'arrête là.
Du coup il y a là sur les trucs que tu dis avec une forme de rupture de contrat quoi.
Ouais tout à fait, c'est généralement un moment où soit ça s'arrête et l'auteur rompt le contrat et puis bah le jeu n'existe pas, soit le jeu existe et l'auteur est dégoûté parce que c'est pas exactement ce qu'il aurait eu envie de faire mais ça c'est le jeu existe quand même quoi. Sur The Loop quand je disais qu'on en avait marre c'était plus le premier truc que t'évoquais de on en avait marre parce qu'ils avaient raison en fait. C'était vraiment relou sur un aspect de à un moment t'es content, t'as une version qui marche, t'es assez satisfait, ça fonctionne, tu joues et tu te dis ok bah le jeu il est cool, c'est chouette, c'est parti, il peut sortir, ça me choquerait pas. Puis t'as l'éditeur qui arrive en disant alors on a rejoué, c'était bien, mais je pense que ça serait mieux si. Et tu te dis ah mais ils ont raison, mais ça veut dire qu'il faut qu'on retravaille alors que c'était déjà satisfaisant et vraiment, il faut qu'on remette en question chaque petit point de détail pour que le jeu il soit le mieux possible. Et ça, c'est une relation que j'ai adoré avoir, mais qui en même temps était parfaitement épuisante. Quoi. Il y a vraiment un côté de, ok, à la fin, le jeu, il est meilleur, et on, à chaque point de discussion, on savait que ça allait évoluer vers un truc meilleur, mais à un moment, t'avais envie de te dire, ah, oh, non, les gars, quoi, est-ce qu'on va discuter de chaque carte, de chaque petit détail et de chaque truc pour que ça soit chouette? Et la réponse, elle est oui, et ça, c'est un des trucs que j'aime bien dans pas mal de relations éditoriales, c'est vraiment ce côté... un peu coup de pied au cul, en fait, que l'éditeur peut t'amener. De toi, t'es content, et puis c'est bon, quoi, t'as fait ton boulot, t'es assez satisfait. Puis l'éditeur, il vient, il remue un peu ça, et t'es obligé de revoir ta copie parce qu'il a un peu raison, et à la fin, le jeu, il est meilleur.
D'accord, mais c'est une personne qui a quand même le point de vue externe du truc, donc qui est assez légitime là-dessus, et encore une fois, qui est très pro parce qu'il a le passif qui va avec, qui est légitime de pouvoir regarder le point-virgule au bout d'une phrase pour dire, bah non, en fait, faudrait mieux faire ça, et ainsi de suite. J'exagère sur l'exemple, évidemment.
Mais à fond, ouais, clairement, il faut, et ça, c'est aussi important, et t'as raison de le souligner. Il faut que ça se passe au sein d'une relation avec un éditeur avec qui tu es en confiance suffisamment pour se dire il me raconte pas n'importe quoi. Je vais encore faire de la retape pour catch-up, mais vraiment la manière dont ça s'est passé avec Sébastien Kim, qui était notre chef de projet sur le jeu, c'est qu'à chaque fois qu'il nous faisait des retours, ses retours ils étaient pertinents, ils étaient intelligents, il avait raison, et d'un point de vue de game design pur, on pouvait pas remettre en doute sa parole parce que ouais, il avait raison en fait. Si un éditeur arrive et te fait tes retours, et je l'ai vécu plusieurs fois, et tu te dis ah non, en fait là c'est n'importe quoi, je suis vraiment pas d'accord avec ce que tu racontes, t'as tort et c'est bête, et bah derrière, toi t'as du mal à l'écouter et à toujours rebouger un peu des idées parce que bah, t'es pas d'accord avec lui en fait.
L'ego là-dedans, j'en parle parce que c'est je pense un point important sur plein de choses. C'est là où je pense qu'il y a une différence entre challenger quelqu'un et lui mettre un petit coup dans l'ego. C'est le côté, ok, votre relation avec Catch Up, j'ai l'impression qu'elle était ultra challengeante parce que comme tu le disais, il y avait très de points positifs et il y a une façon peut-être d'apporter les choses qui est motivante à vouloir changer un point de mécanique ou une carte ou n'importe quoi. Et il y a l'autre côté qui justement où t'as l'impression que la personne veut juste faire un retour pour faire un retour, et peut-être ton ego il en prend un coup parce que tu dis bah non, en fait là je sais exactement ce que je fais, et en fait c'est presque chiant d'avoir un retour, quoi.
Ouais, 100%, ouais, faut réussir à trouver l'éditeur avec qui tu te dis bah quand il me dit quelque chose, il apporte quelque chose avec lequel je peux être d'accord, rebondir plutôt que se dire ouais, bah non, en fait vraiment j'ai plus envie que tu me parles parce que je suis pas d'accord avec ce que tu me dis à chaque fois, donc ça sert à rien.
Je vois ce que tu veux dire. Ok, donc là en fait c'est une des questions que j'avais derrière, c'est de dire comment on fait pour écouter correctement son éditeur. En vrai c'est une relation humaine et je pense qu'on en reviendra toujours à ça, de dire il faut savoir bien dire les choses et savoir bien les écouter aussi pour les prendre de façon positive.
Ouais, et ça c'est vraiment dur, moi je l'ai vécu des deux côtés du coup, parce que quand j'étais entre autres chez Ropopron, on faisait beaucoup de développement et donc un de mes rôles c'était d'envoyer des mails aux auteurs pour leur dire « Hey, tu te souviens quand tu nous as dit que cette version-là, elle était finie ?» En fait, nous, on trouve qu'elle n'est pas finie et il faut encore bosser. Et j'ai senti ponctuellement que j'avais pu vexer un peu l'auteur en face parce que, je sais pas, j'avais pas pris les bonnes formes ou que j'avais pas bien structuré mon mail ou que juste, bah, je sais pas, j'avais loupé un peu un truc et que j'avais eu ce côté des fois un peu vexant de dire « Ah bah en fait, moi, je mets mon grain de sel dans ton bébé qui est le jeu sur lequel tu bosses et avec qui t'as plaisir à bosser. Il faut que j'arrive à l'amener sans que ça soit vexant pour personne et qu'on puisse rebondir et que ça se passe bien et qu'on bosse, quoi. » Et ça, c'est vraiment un exercice qui est assez périlleux, je pense. C'est pas forcément évident de réussir à bien dialoguer sur ça et avoir la bonne posture.
Pour avancer un peu, est-ce que toi, en tant qu'auteur, tu as t'as un mot à dire sur tout ce qui est, alors je veux dire les moyens de production, mais c'est très très large. C'est dire, bah non, j'aimerais pas travailler avec une usine qui se trouve à l'autre bout de la planète, ou j'aimerais travailler plutôt avec quelqu'un qui fait du cube en bois plutôt que du cube en plastique. Est-ce que tu vois ce genre de détails de produits?
Pas trop. Moi, je mets un peu mon grain de sel. Mon passé un peu d'éditeur m'aide à avoir un peu une conscience de comment ça marche, donc je me permets ponctuellement de donner un peu des infos, de réfléchir un peu, de rebondir, mais globalement c'est quand même aussi un truc où volontairement je m'efface un peu en me disant bah c'est le boulot de l'éditeur, je veux pas être le mec relou qui vient donner son avis sur chaque point de détail, et c'est compliqué de se faire entendre, notamment parce que entre autres les lieux de production, clairement moi je fais partie des gens où si je pouvais produire mes jeux tous en Europe pour que l'empreinte carbone soit un peu plus faible et sans plastique, je serais assez chaud. Mais force est de constater que souvent il y a des contraintes sur lesquelles on ne peut pas pallier en fait. Donc donner mon avis et dire hey, les gars, ça serait cool qu'on bosse pas en Chine, je peux le faire avec plaisir. Je sais que je serai rarement écouté parce que si la plupart des éditeurs bossent en Chine, c'est pour des raisons pragmatiques qui fait qu'ils peuvent pas bosser en Europe. En fait.
Ouais, c'est là où le côté écologie prend un peu un coup et c'est dur à dire, mais en fait il y a une réalité derrière qu'on accepte ou pas, mais qui est quand même un peu présente quand même. Pour tout ce qui est rôle de l'éditeur, t'as évoqué la partie graphique. Je pense qu'on est d'accord, toi et moi, pour dire qu'on n'en parlera pas maintenant. Et je te laisse dire pourquoi.
Ah, c'est beau, cet effet de teasing. On n'en parle pas trop parce qu'on va enregistrer un épisode spécial avec, on n'est pas encore certain de nos invités, mais on commence à avoir un peu des gens en tête, mais avec des illustrateurs, illustratrices pour discuter de cette partie-là et de comment se crée cette relation auteur-illustrateur-trice, enfin auteur-trice-illustrateur-trice d'ailleurs, si on veut être encore plus inclusif, et comment est-ce que cet acteur supplémentaire s'inscrit dans le processus créatif.
On va éluder cette partie pour plus tard. Est-ce que, un truc, quand on a parlé du conducteur, un truc qui tu me disais qui ferait un peu grincer, et je pense que c'est très vrai, comment transformer le jeu, c'est-à-dire ce que apporte l'auteur en termes de fun, c'est-à-dire j'ai envie de faire une mécanique de jeu qui va faire amuser les gens, en produit qui est à mon sens que l'éditeur veut avoir parce qu'il lui il parle plus d'un produit parce qu'il a envie de vendre quelque chose aussi pour vivre. Comment cette transformation elle existe et pourquoi selon toi c'est un peu grinçant comme sujet?
En fait il y a vraiment un truc qui est compliqué dans le milieu et dans la création ludique, c'est cette notion de, alors je vais tout de suite dire des gros mots mais on va essayer de pas y passer 5 heures parce qu'il y a plein de choses à dire, mais d'œuvre d'art contre produit culturel. Et vraiment il y a pas mal de gens dont je fais un peu partie qui ont l'impression que les jeux c'est pas des produits comme les autres, mais que c'est des produits quand même, et que la finalité à la fin de quand on fait un jeu c'est quand même de réussir à en vendre pour toucher un public le plus large possible, et puis pour que tout le monde puisse se rémunérer et que je puisse payer mon loyer à la fin du mois, ce qui est assez important pragmatiquement pour moi, mais qu'il y a quand même cette notion culturelle qui est importante et qui fait que bah on vend pas un jeu comme on vend des chaussettes, comme on vend pas un livre, comme on vend une boîte de conserve. Néanmoins, la notion de produit, elle fait quand même grincer pas mal de monde, puisqu'il y a aussi cette notion un peu artistique derrière, de se dire, bah, dans un jeu, j'ai un propos, je veux faire quelque chose de particulier, je veux y aller, et qu'on pourrait envisager, même si j'ai l'impression que c'est pas encore le cas pour l'instant, du moins de manière très anecdotique pour le coup, de faire des jeux qui auraient pas des bonnes qualités en tant que produit, mais qui auraient des belles qualités artistiques, et en se disant, bah, mon jeu sur un thème super chelou, ou qui coûte cher alors que c'est une petite expérience de jeu, ou qui est produit vraiment de manière très différente, il a aussi le mérite d'exister, alors que la conscience produit, elle n'est pas là, elle est juste, bah, j'ai un propos en tant qu'auteur-artiste, et j'y vais jusqu'au bout.
Mais du coup, ce qui, selon toi, fait grincer, c'est le fait de dire, j'ai pas envie de juste vendre un truc, j'ai envie de montrer aux gens ce que je suis capable de faire et, en tant qu'artiste, c'est ça le truc?
Ouais, c'est ça, ou même... souvent on se dit bah non arrêtez c'est pas des produits c'est des jeux et y a presque ce distinguo là de se dire bah non c'est trop particulier et on veut pas avoir ce côté mercantile capitaliste que spoiler alert il y a quand même un peu toujours à la fin, mais en gros c'est un peu cette notion de, et ça je le partage, moi je veux pas faire de compromis fort en me disant que ça va bouleverser le gameplay ou le jeu juste parce qu'on me dit que la ménagère de moins de 50 ans elle sera contente d'acheter mon jeu si jamais on change complètement le thème ou si on enlève la moitié des mécaniques.
Là je comprends le côté ça peut faire grincer, mais en réalité dans les faits c'est quoi? Genre se dire je transforme un jeu en produit, c'est plutôt dire bah écoute là t'as fait des petits bisounours roses, bah en vrai ce serait mieux si c'est des monstres à tentacules ctoniens quoi, genre c'est un peu ça l'idée ou c'est autre chose?
Ouais clairement ça peut être ça, c'est réfléchir à quelle est la cible, comment l'atteindre, notamment sur des changements de thème effectivement, et aussi après sur des petits changements de mécanique, des fois de la simplification pour que le jeu trouve mieux sa cible, et aussi du changement sur le matériel pour que le jeu puisse sortir à un prix qui soit le bon prix pour le public cible. Pour prendre un exemple très concret, typiquement moi si je fais un jeu pour enfants et qu'on me dit ah ça me plaît beaucoup, je vais l'éditer, c'est parti, par contre ton thème qui est je sais pas, les cactus, parce que je fais un proto sur les cactus en ce moment donc je l'épile dans mon ligne de mur, ton thème sur les cactus il nous plaît pas, à la place ça sera des oiseaux, si c'est bien discuté et si on me dit que les oiseaux commercialement ça va mieux marcher, grave, pourquoi pas. Si on me dit par contre ah mais on pense que en fait faut mieux faire des licornes et que la boîte elle soit rose parce qu'on veut cibler les petites filles, alors on va faire des boîtes roses pour cibler spécifiquement les filles, bah là typiquement moi il y a une logique produit dans lequel je me retrouve pas et qui va me déranger, et là je vais dire bah non les gars c'est pas possible quoi, on fait pas une boîte rose exprès pour cibler les filles parce que ça me dérange dans ce que ça raconte, même si vous me dites que vous avez fait des stats et que en termes de produits les boîtes roses pour les filles se vendent mieux que les boîtes unisex ou non genrées, parce que si on met des oiseaux ça marchera pas aussi bien quoi.
Du coup je pense qu'il y a un problème avec de la part de l'éditeur là-dessus, parce que finalement il a plus envie d'une commande de jeu sur se dire ok là j'ai envie de taper sur la prochaine sortie ce marché là plutôt que de dire en fait c'est ce jeu que je veux éditer parce qu'il me plaît, et c'est pas la même démarche de l'éditeur, donc là je pense qu'il y a une erreur de la part de l'éditeur si vraiment ça arrive qu'on est à ce point de différence.
Ouais clairement ça peut, il y a vraiment des choses de ça peut évoluer dans le bon sens comme dans le mauvais sens, et c'est important de réussir à trouver sa place. Si je prends un autre exemple que j'ai en tête parce que je l'ai fait et qui est chouette, c'est quand j'ai présenté Détective Charlie à Loki, avec qui on a décidé de bosser ensemble, donc un jeu d'enquête pour les petits, moi ça s'appelait Sherlock Witch, et le thème c'était on est une petite sorcière et on va mener des enquêtes dans une ville où il y avait déjà cette notion un peu des animaux, puisque c'était mon proto était avec les mêmes illustrations, enfin la même illustratrice, et on va enquêter dans la ville. À un moment, Loki, ils sont revenus vers moi en disant « Alors, on aime bien le thème des sorcières, on aime bien ton côté Sherlock Witch, mais on a peur que ça fasse trop saisonnier en termes de produits, qu'il y a un côté très Halloween, et que bah, derrière, on loupe des ventes, que clairement, le produit et pas le jeu en lui-même soit un peu moins bien. Et donc, on partirait bien sur un truc animalier un peu mignon. Regarde, on a fait des petites recherches et on pense que ça se calerait bien. » Évidemment que j'ai accepté, quoi. C'était, y avait une notion de... On faisait évoluer le jeu pour que ça devienne un meilleur produit, là, pour le coup, à 100%. La réflexion était tellement logique et le changement était tellement dans la bonne direction que pour moi c'était vraiment clair que j'allais accepter tout de suite.
J'ai un exemple en tête avec Bruno Catala sur La Main du Roi. Alors c'est l'histoire qu'on m'avait racontée à l'époque, je sais pas si elle est vraie, mais apparemment il avait la mécanique de jeu et le jeu lui-même il l'avait été faite, et quand il a trouvé son éditeur qui doit être Edge de mémoire.
C'est FFG, ouais, mais Edge en France, ouais.
En fait, on lui a demandé de faire ça sur le côté Game of Thrones, parce que c'était en plein boom à l'époque, et que du coup, ça aurait marché un peu plus, et du coup, il a été mappé, entre guillemets, sur le côté cette couronne et cette famille, pour pouvoir avoir ce truc-là. Mais la mécanique en elle-même était déjà faite, elle a pas changé, elle a un peu évolué, mais pas énormément derrière. Et du coup, bah, ça devient, le jeu devient un réel produit, parce que, bah, en fait, on cherche à matcher avec un truc qui est fort en ce moment et qui fera vendre des boîtes en même temps.
C'est un bon exemple, je suis assez d'accord.
Deux derniers points, le côté je vais l'appeler BAT parce que j'ai pas d'autres termes en tête, mais est-ce qu'à un moment, quand l'éditeur a choisi chez qui il va produire, quel type de cartes on va avoir, parce que je pense qu'il y a aussi un sujet là-dessus sur le côté, est-ce qu'on prend des cartes en carton simple, est-ce qu'on prend un truc un peu tissé pour faire des cartes un peu poker à l'américaine qui sont très, très, très solides, est-ce qu'on prend ce type de pion ou ce type de meeple, tout ça. C'est discuté, j'imagine, avec toi ou pas du tout?
Un peu, pas de ouf. Ça dépend vraiment des éditeurs aussi, et ponctuellement, il y a vraiment ce côté de, on a discuté, je le spoil un peu le prochain épisode spécial, mais ponctuellement, on est même à peine consulté sur l'illustrateur-trice qui a été choisi, et plus, bah, on a fait le jeu, on a signé le truc, et puis à un moment, on reçoit des images, et puis c'est fini, à la limite, on fait une relecture de règles, et puis basta, quoi, on a vraiment pas eu voix au chapitre sur presque quoi que ce soit. Et ponctuellement, avec d'autres éditeurs, on a plus de discussions. Après, les détails de production, type la qualité des cartes, etc., c'est vraiment très rare qu'on soit consulté et qu'on en discute, quoi.
Donc tout ce qui est produit final, enfin BAT, du coup, bon à tirer du produit, et pour parler de produit là, c'est pas, tu as rien, tu n'as pas la main mise dessus, tu sais même pas si c'est fait correctement, j'imagine, ou à quoi ça va ressembler.
J'ai ponctuellement eu des chouettes éditeurs qui nous envoyaient des photos ou avec qui on discutait, voire avec qui on faisait un petit Skype pour voir à quoi ça ressemblait, parce qu'il y a deux grandes étapes. La première, c'est la réception de ce qu'on appelle un blanc sample, qui est vraiment un prototype sur lequel rien n'est imprimé. Donc s'il y a 63 cartes dans le jeu, il y a 63 cartes, mais elles sont blanches. S'il y a un plateau, le plateau il est aux bonnes mesures, mais il est blanc, qui est vraiment une notion de vérifier que le matériel correspond bien à ce qu'on avait en tête. Et après, il y a une réception par l'éditeur, une fois que ça a été validé, par ce qu'on pourrait appeler un BAT, hein, pour le coup, mais qui est un sample final, qui est le prototype, le jeu imprimé, tout est bon, on peut vérifier que tout va bien. Ça arrive dans tous les cas chez l'éditeur, et jamais chez l'auteur.
Le dernier point, jusqu'où va la... C'est un peu ouvert comme question, et elle vient à la fin, je suis désolé. Mais jusqu'où va la relation de confiance sur ça, en fait? J'imagine que, comme tu me dis que t'es pas consulté sur le côté illustrateur, illustratrice, sur le côté peut-être choix du matériau pour les pions, pour le reste, la question c'est, est-ce que tu aurais ton mot à dire vraiment, ou est-ce que finalement c'est une soupape pour toi de dire ok, ça c'est l'éditeur qui le gère et j'ai pas à le faire?
C'est presque paradoxal, parce que c'est presque ceux avec qui j'ai été le plus consulté, avec qui je suis le plus en confiance maintenant. C'est-à-dire que quand on a été dans une belle relation, on a discuté de chaque point, on a eu un peu voix au chapitre, ça a créé une belle relation, ce qui fait que si demain je refais un jeu avec Catch-Up, je sais que ça se passe bien, je sais qu'ils vont bien gérer la prod, je sais qu'ils sont canons sur le choix des illustrateurs-trices, et donc il y aurait presque un côté où je pourrais dire « Bon allez-y les gars, Pokémon à la fin, parce que je sais qu'ils vont pas le faire en fait, donc je sais qu'ils vont faire du bon boulot et que je vais être consulté ». Il y a d'autres éditeurs, mais c'est encore une fois, pour revenir un peu sur les discussions précédentes, c'est ceux avec qui j'ai moins envie de bosser. Je sais que je vais être pratiquement pas consulté, et donc c'est moins agréable comme relation de travail. Ça va pas être une zone de blocage à 100%, mais il y a des éditeurs, je sais que ouais, vraiment, il va y avoir ce côté de « on va signer, et puis je vais cligner des yeux, et puis 6 mois, 8 mois, 1 an plus tard, je vais avoir la version finale à vérifier, et puis je pourrais peut-être faire une remarque en disant « Ah là, il y a une vraie erreur, mais globalement, j'aurais choisi peu de choses. » Et dans, avec cela, c'est pas forcément ceux avec qui je serais le plus en confiance. C'est ça qui est un peu paradoxal. C'est, bah, ils vont faire leur truc, et j'ai presque peur qu'il faille que je revise les règles et que je leur dise « Attention, vous avez oublié ce point-là » ou que je leur dise « Bah attention, là, l'ergonomie de cette carte, elle est pas terrible. » Parce que bah, j'aurais pas eu l'occasion de le faire sur les différentes petites étapes. Donc c'est presque ceux qui prennent le plus de place avec qui je suis le moins en confiance. Qui est bizarre.
En fait, il y a un côté si Ketchup aujourd'hui sur The Loop avait fait la même démarche, c'est-à-dire pas de consulter du tout ou très peu, t'aurais peut-être eu moins cette relation de confiance aujourd'hui pour dire bah, je peux rebosser avec eux sans problème. Mais à défaut, si les autres éditeurs qui t'ont pas du tout dit les choses t'avaient fait valider au fur et à mesure, bah en fait, les prochaines. En fait, c'est toujours un problème de première fois en fait, de se dire bah, la première fois, au moins on est raccord et je vois comment ils bossent et ça me va très bien et pour la suite j'aurai confiance plutôt que le contraire.
Ouais, et puis tu parlais de confiance et d'écouter éditeur, on parlait un peu de savoir faire ses preuves aussi. Typiquement, s'il y a un éditeur, et ça m'est déjà arrivé, me renvoie les règles à relire, et il y a une grosse erreur dans les règles, si je fais d'autres jeux avec cet éditeur, je vais dire « Envoie-moi les règles dès que possible », parce que je sais qu'une fois, ça a merdé, donc ça peut merder à chaque fois. Alors que si tout se passe bien, tout est impeccable, il n'y a rien à redire, bon, à la fois d'après, t'es un peu en confiance, et tu te dis « Bah, allez-y, ça va rouler, j'ai pas trop peur, quoi. »
Concernant les règles, justement, t'as l'air de dire que c'est pas toi, en tant qu'auteur, qui les rédige.
Pardon, ça me fait presque... Ça me fait un peu glousser. C'est un gros sujet très compliqué et très bizarre. Ponctuellement, c'est l'éditeur qui les rédige. Régulièrement, c'est l'auteur. Moi, j'aime bien les rédiger quand j'ai la possibilité de le faire. Mais il y a des éditeurs qui ont des canevas de règles précises, qui veulent les rédiger d'une certaine manière. Et ponctuellement aussi, l'éditeur retravaille les règles que tu as rédigées sans forcément trop t'inclure. J'ai un jeu qui est sorti où, globalement, les règles qui ont été mises dans la boîte, c'est les règles du prototype que j'avais envoyé, que l'éditeur a relu, il a corrigé les fautes d'orthographe, il a peut-être changé une phrase et puis en avance sans spécialement nous consulter. Ce qui était un peu problématique, par exemple. Auquel on a pu dire, ah les gars, sur les prochaines éditions, regardez, il faut changer ça, parce que bah, les règles, nous, c'était les règles du proto, donc on les a pas rédigées forcément en se disant que après, les moldus allaient les avoir dans les mains et allaient lire les règles normalement, quoi. Et donc ça, c'est assez compliqué.
Pour revenir sur ce point-là, en fait, effectivement, on en avait discuté sur le tout début de une des premières émissions où tu me disais, bah, quand j'envoie une règle à un éditeur, bah, je lui dis pas ce que c'est le draft, je lui dis, il faut drafter, il va comprendre ce que c'est, quoi. Mais effectivement, si du coup, l'éditeur prend juste cette règle-là, l'inclus en tant que tel. Et je pense que c'est pour ça qu'il y a des jeux sur lesquels parfois on se retrouve vraiment perdu en tant que joueur, vraiment perdu sur un point de règle ou sur dire je ne comprends pas ce que ça veut dire ou je ne comprends pas ce qui a été demandé là et qu'on a besoin derrière de FAQ ou de mise à jour.
Ouais, c'est un des grands défauts de la production de jeux de société, mais les règles, c'est souvent ce qu'on fait en bout de course à la toute fin, souvent sur un timing où tu es un peu stressé, souvent avec des traducteurs derrière. Et donc régulièrement, et là ça je l'ai vécu plusieurs fois et j'ai plusieurs auteurs avec qui je connais qui l'ont vécu plusieurs fois, c'est vraiment l'éditeur qui t'envoie les règles à la fin en disant ah tu peux relire les règles s'il te plaît, c'est pour dans 5 heures parce que ça part en traduction juste après, quoi. Et vraiment c'est un truc où, et il y a plein d'éditeurs, je vais encore dire du bien de Ketchup, mais les règles de The Loop, je pense qu'on les a rédigées, relues, re-rédigées au moins 8 fois pour qu'elles soient vraiment aux petits oignons le plus possible en tout cas. Mais c'est un des parents pauvres de la production et de l'édition de jeux de société, c'est le livret de règles, et c'est un vrai problème, je trouve.
Alors qu'en vrai, c'est quand même le cœur du produit pour les joueurs. Dernière question, peut-être un peu perso, et je sais pas si tu voudrais y répondre ou pas, mais est-ce qu'il t'est déjà arrivé de pas avoir été consulté pour la production d'un jeu, de recevoir ta boîte entre guillemets finale, et finalement te dire ah bah tiens, c'est, je vais pas dire déçu, mais dire c'est pas du tout ce que j'avais en tête, ou en termes de matos, et finalement bah le produit me plaît pas par rapport à ce que je voulais, ou tu vois, avoir ce côté assez déceptif du produit final.
Je réfléchis pour pas dire de bêtises, pas trop. Le seul truc en toute sincérité, c'est quand on a reçu nos boîtes de glisse-glace qu'on a édité chez Djeko. J'adore le matériel, j'aime vraiment la plupart des choses qu'ils ont faites. J'aime pas trop la couve, mais il y a une question de goût, et donc j'étais un peu genre ouais, ok, cette couve elle me déplaît pas, mais elle me plaît pas spécialement. Mais à part ça, non, j'ai jamais eu de grosses déceptions, et même glisse-glace, c'était pas un détail parce que la couve c'est important, mais il y avait une notion de goût, donc ça me dérange pas. Il y a des jeux que j'ai fait où à mon goût c'est pas la manière dont je l'aurais fait, mais ça me dérange pas que ce soit quelqu'un d'autre qui ait pris cette décision. De vraies grosses déceptions, j'en ai jamais vraiment vécu, non. Mais par contre, ce qui est important à avoir en tête, c'est je pense que j'ai jamais reçu un jeu où j'avais pas des petites remarques à faire après l'édition. Et les jeux sont souvent révisés, alors vous inquiétez pas, vous pouvez acheter les premières éditions des jeux, il y a rarement des grosses révisions qui vont bouleverser votre achat. Mais souvent, bah, je relis les règles et je me dis « Ah, cette phrase, il aurait peut-être fallu la tourner un tout petit peu différemment. Ah, ce picto-là, il peut peut-être être un peu amélioré. » Et c'est Antoine Boza qui m'a vachement appris à faire ça parce qu'il le fait systématiquement. Mais quand je reçois mes exemplaires d'auteur, bah, maintenant, j'ai envie de vérifier tout et de faire un petit post-mortem à l'éditeur en disant « Ah, attention, la couleur, là, on pourrait la changer un tout petit peu. Ça, ça pourrait changer. Il manque un point sur le dos de boîte ou ce genre de petits détails qui sont imperceptibles pour la plupart des gens entre une première ou une deuxième édition, mais qui améliorent un peu l'expérience de jeu et le jeu d'une manière générale d'une édition à l'autre.
Pour en avoir parlé avec des auteurs, j'ai l'impression que finalement rien n'est jamais terminé. C'est-à-dire que t'as toujours un truc à voir changer, améliorer, une deuxième visibilité du jeu, une deuxième vision qui te dit bah en fait ça j'aimerais, en fait faudrait peut-être changer cette phrase ou ce genre de choses et finalement tu pourrais le changer ad vitam aeternam. Mais c'est un peu ce qu'on disait au début sur une des premières émissions par rapport au proto quoi.
Ouais, 100%.
Bah écoute, on arrive à la fin de cette émission. Je vais récap rapidement les grandes lignes comme d'habitude. Donc l'idée c'est d'avoir, enfin je parlais encore d'expérience humaine, l'idée c'est de savoir être à l'écoute entre auteur et éditeur, savoir se faire confiance dans le sens faire des retours qui soient à la fois professionnels et positifs, parce qu'il faut savoir travailler dans la positivité en général, savoir aussi se mettre peut-être un peu en retrait par rapport à son éditeur qui a quand même son boulot à faire et peut-être pas vouloir trop regarder ce qu'il fait ou trop l'empêcher ou donner son point de vue en permanence, parce que de toute façon il a son boulot et c'est plutôt pratique pour en tant qu'auteur d'avoir ça en tâche de fond sans forcément y penser. Savoir prendre les challenges correctement, ça je l'ai dit un peu mais c'est important de le répéter. Savoir travailler son jeu en produit, c'est-à-dire finalement savoir le faire, le modifier et comprendre qu'il y a un marché à toucher derrière et qu'il y a une chose pragmatique qui est quand même la vente à faire et voilà, et travailler en bonne humeur et en confiance. Est-ce que ça te semble correct?
Ouais, ça me semble un bon résumé.
Bien, bah écoute, parfait. La prochaine émission, le mois prochain, on s'attaquera à un autre sujet qui est la suite. Là, donc on a notre produit fini, il vient d'être sorti d'usine, on a reçu le produit final, on est tous contents et on sait que le produit va cartonner. Mais justement, comment va-t-il cartonner, c'est-à-dire la vraie vie commerciale du jeu, pour le dire un peu de façon capitalistique, c'est-à-dire comment le suivre réellement, comment gérer la suite et ensuite même rebondir sur autre chose. Ce sera le prochain sujet de 6388. Est-ce que tu as des choses à ajouter ou est-ce que selon toi on est bon?
On est pas mal, c'est un gros bébé, je me rendais pas compte qu'il y avait autant de choses à dire, donc peut-être que si, comme d'hab, si vous avez des questions, donnez-les nous. Et y aura sûrement des choses à redire sur ce sujet-là.
Ouais, clairement, ouais. Je sais pas où on en sera quand cet épisode sortira par rapport aux questions des gens, mais on en a déjà discuté tous les deux. Peut-être qu'on fera un truc FAQ qui reprendra toutes les grosses questions qu'on a eues de chaque côté sur l'édition en général et sur les épisodes, et peut-être faire un truc un peu plus précis.
Moi, je suis chaud.
Ok, bah écoutez, 6388, c'est fini pour l'épisode 7. On se retrouve le mois prochain. N'hésitez pas, comme Théo a dit, si vous avez des questions, à les envoyer. Twitter, alors on n'a pas Twitter, mais voilà, vous avez compris ce que je voulais dire. N'hésitez pas à partager les épisodes. Je rappelle rapidement quand même que 6388 est un podcast qui fait partie du label Vaisseau Hyper Sans Sas, qui a un Patreon. Donc n'hésitez pas, si vous aimez ce qu'on fait et si vous aimez le label en général, à venir voir sur le Patreon et sur notre Discord, discuter avec les gens et pourquoi pas nous donner un peu d'argent pour pouvoir continuer l'aventure, aussi bien pour 6388 que pour les autres podcasts. Et voilà, on vous dit au mois prochain et des bisous, éclatez-vous.
À bientôt.